mardi sur RFI.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot International sur RFI, comme chaque jour, pour évoquer le football. Et aujourd'hui, eh bien, la Ligue des Champions, la compétition phare de l'Europe, revient sixième et surtout dernière opportunité de se qualifier en huitième de finale pour encore quatre équipes. Le PSG joue son avenir dans la compétition à Belgrade, dans la chaude ambiance des supporters de l'Étoile Rouge. Les Parisiens doivent gagner pour ne pas se soucier du résultat entre Liverpool et Naples à Anfield. Le PSG a montré sa force en battant les Reds récemment au Parc, mais ils affrontent à domicile une équipe invaincue depuis 32 matchs sur la pelouse de son Maracana. Les hommes de Thomas Tuchel doivent se méfier, doivent-ils trembler? Est-ce qu'ils doivent trembler, Rick Ravesander-Fontana?
Non.
Non? Bon, on y reviendra. Et le match, ne l'oubliez pas, sera retransmis sur l'antenne de RFI. Quant aux finalistes, les Reds de Liverpool, sont-ils en danger face à Naples? Tout cela, nous allons essayer d'y répondre dans Radio Foot. Et puis, qui de Tottenham et de l'Inter Milan sera en huitième de finale avec le FC Barcelone? Les Spurs jouent au Camp Nou, leur qualification. Les Interistes en Italie face à Eindhoven. Mission difficile apparemment pour Tottenham. Enfin, le grand footballeur, la star, Didier Drogba, en direct dans Radio Foot. À la mi-temps de cette émission, la légende de Chelsea est sortie des pelouses récemment, mais pour entrer, eh bien, sur le terrain de la diplomatie sportive. Vous l'entendrez, il sera en direct de Monaco et il nous répondra, le grand Didier Drogba. Alors, il y a Eric Rabessandratana avec nous, il y a aussi Philippe Doucet. Bonjour Philippe.
Bonjour Madame Annie.
Philippe qui revient de sa tournée en Afrique, n'est-ce pas? C'est bien ça?
Bon, c'est pas une tournée, c'est un voyage. C'est du boulot.
Hervé Penaud est à vos côtés, notre camarade de l'équipe. Bonjour.
Bonjour à tout le monde, mais quel plaisir d'être en votre compagnie. Alors, il a fait sa tournée africaine, moi j'ai fait ma tournée parisienne.
Parisienne et lyonnaise aussi, non?
Lyonnaise, effectivement.
En gilet ou pas?
Oh, yeah. Oh oui, moi toujours en gilet.
En doudoune peut-être. Oui, fait pas très chaud. Thomas de Saint-Léger, bonjour.
Bonjour Annie. Bonjour tout le monde.
Eh bien, Radio Foot, c'est parti.
Magnifique remise pour Calderon qui lui remet la frappe d'Insigne. Elle est belle cette frappe sur la barre. Peut-être l'occasion la plus franche dans cette rencontre pour l'Étoile Rouge de Belgrade.
J'ai écouté que c'est vraiment impressionnant. Nous sommes capables de faire un bon match ici.
Là on vient pour la qualification, donc on n'aura pas trop le temps de regarder les supporters.
Nous voici dans l'ambiance de Belgrade, mais Thomas Tuchel et Kylian Mbappé, vous l'avez entendu, veulent rester zen. Pourtant, ce stade de la capitale de Serbie où joueront ce soir l'Étoile Rouge et le PSG impressionne ou semble impressionner tous ceux qui s'y rendent, qui le visitent. Alors par sa taille, par la passion des supporters aussi, ou sans doute aussi par son nom. Allons justement tout de suite du côté de Belgrade. Christophe Jousset, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Christophe, vous qui connaissait, qui avait le privilège de connaître désormais les deux stades, le Maracana avec un C, celui de Rio de Janeiro, où notamment il y a eu des matchs de la Coupe du Monde en 2014, et puis désormais eh bien celui-là, alors vous l'avez visité vide, mais est-ce que ce sont deux stades comparables ?
Oui, c'est ils ont un peu une familiarité, disons, par leur côté très ouvert. Hein. C'est vrai que les tribunes sont en pente douce. Et bon, en fait, si on l'appelle le Maracana avec un K, c'est parce que au début de son histoire, ce stade ici à Belgrade, il avait c'est-à-dire en 1964. Il avait une capacité qui était officiellement aux alentours de 100 000 personnes. Et bon, en se serrant bien bien. il y a eu des matchs avec 110 000 personnes, voilà, pour se tenir chaud en hiver. Ce soir, il faudra d'ailleurs peut-être se serrer un peu parce que il devrait faire à peu près 1 degré au coup d'envoi dans ce Maracana, dont la capacité, alors aujourd'hui, n'est plus du tout de 100 000 personnes, les plus modestement de 55 000 personnes, mais la ferveur demeure.
la ferveur, et on parle, Christophe, beaucoup, on voit aussi sur les réseaux sociaux parler d'un tunnel, un fameux tunnel où là tous les joueurs peuvent avoir la trouille. Ça fait rire, Eric Rabessandratana, je vous le dis parce que vous n'avez pas l'image.
Ouais. Mais le tunnel, alors on aurait bien aimé plonger nous aussi dans cette ambiance de cette espèce de cordon qui relie les vestiaires, la sortie des vestiaires à la pelouse. Il existe quand même des vidéos qui circulent sur internet qui permettent de se faire une idée de ce que les joueurs vivent au moment de parcourir ces quelques dizaines de mètres. C'est un tunnel tout rond où on passe parfois entre deux rangées de policiers avec leurs casques et leurs boucliers. Ça met un peu dans l'ambiance déjà. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que les joueurs progressent vers le bout du tunnel, eh bien ils commencent à entendre monter le grondement du vieux stade sans voir d'ailleurs, ce qui est d'autant plus impressionnant, j'imagine. On entend le claquement des pétards, les chants des supporters qui vont passer quasiment tout le match debout, 55 000 supporters, et puis finalement tout au bout du tunnel on débouche en plein air sur la pelouse de ce stade Maracana dont la réputation a fait le tour de l'Europe et même au-delà. C'est vrai que les Parisiens vont vivre ces moments. Alors il paraît qu'il est moins impressionnant qu'avant parce que en plus, jusqu'à un passé assez récent finalement, il y avait plein d'inscriptions à l'intérieur de ce tunnel, des graphes, un peu à la mode graphes, peinture, et que l'UEFA a voulu, disons,
aseptiser
un peu tout ça, ouais, aseptiser si vous voulez, en mettant des classiques couleurs rouge et blanc. Mais ça reste quand même un moment d'approche du terrain qui doit jouer son rôle dans l'avant-match. Ouais.
Eric Rabessandratana, est-ce que ça peut avoir une influence sur le match, sur les joueurs? Précisons-le quand même, le Paris Saint-Germain s'est déjà frotté à Anfield quand ils sont allés jouer à Liverpool. Ils ont joué aussi dans le fameux Sampaolo contre Naples. Les chaudes ambiances, c'est pas l'ambiance du parc, mais ils connaissent quand même.
Non, puis même si il y avait un peu d'appréhension, je pense que l'appréhension, elle est jusqu'à arriver sur le terrain, parce qu'après, une fois que vous êtes sur le terrain, vous êtes concentré sur le jeu. Donc et encore une fois, ils s'entraînent. Alors je pense qu'ils se sont entraînés sur le terrain la veille, donc le couloir ils ont déjà fait, même s'il y a pas le bruit et à tout ça, et donc ils connaissent exactement l'environnement. Alors après, bien sûr, il y a les supporters, on va les entendre juste avant le match, mais sincèrement, je pense que ça ne va pas les déstabiliser.
Oui, parce qu'en fait, ça peut jouer une ambiance, sur un match, mais surtout pour sa propre équipe, parce que c'est pousser ses propres joueurs. Parfois, quand vous êtes un peu fatigué, vous sentez que vous avez 60 000 personnes qui poussent derrière vous, et ben de temps en temps, ça vous donne un regain de force, un regain d'âme supplémentaire. En revanche, là, vous avez en face de vous, imaginez un Neymar, il a joué au Brésil dans des ambiances aussi costauds que ça. Vous avez des joueurs qui ont connu tout
Maracana,
ça dans le vrai Maracana. Il a connu la plus grosse pression que peut connaître un footballeur, c'est-à-dire Coupe du Monde à domicile au Brésil en 2014. Jusqu'à sa blessure, il est le héros absolu de l'équipe. Ouais, il portait l'équipe sur ses épaules. Si lui, il est capable de tenir ça chez lui, avec 150 millions de gens qui sont complètement à bloc, je pense qu'il peut tenir devant 55 000. Et puis surtout, maintenant, comme on parlait d'aseptisation, c'est vrai qu'aujourd'hui, le match de Coupe d'Europe, c'est quand même plus calme.
C'est ça.
L'UEFA gère ça de manière très professionnelle.
Il y a moins de fumigène, il y a moins de choses comme ça. Donc je pense qu'il y a moins de pression aussi.
Non, Philippe. Ce qui a beaucoup changé surtout, c'est qu'il y a la télé. Et donc l'arbitrage n'est pas tout à fait le même. Enfin, il y a un certain nombre de critères qui aujourd'hui font que
il y a pas de système vidéo.
Non, mais on peut gagner à l'extérieur tout à fait naturellement. Et puis, dans ma mémoire, en tout cas, je ne connais pas encore de spectateurs ayant marqué un but. Je cherche, mais j'ai pas trouvé. Je cherche. Je vais peut-être trouver.
On en a vu un. Oui. Et toi, sur un match de Lens. Un spectateur avait balancé un caillou et la balle avait tapé le caillou et marqué. Donc d'une certaine manière, il avait fait passe d'ess.
Les résultats de l'Étoile Rouge à domicile en Ligue des Champions sont sensiblement différents de leurs résultats à l'extérieur. Ils viennent de battre Liverpool quand même. Je ne sais pas si c'est ce fameux 12e homme, en tout cas ce sont les faits.
Oui, mais ils avaient eu beaucoup de mal contre Naples. Naples a vu un paquet d'occasions. Il faut pas non plus nous dépeindre l'étoile rouge comme d'un seul coup un épouvantail du football européen. Non, c'est une équipe effectivement qui à domicile est difficile à bouger. Ce sera pas facile pour Paris Saint-Germain, mais ça les joueurs le savent. Mais s'ils sont à leur niveau, alors, logiquement ils doivent passer.
Alors justement, Christophe, ambiance chaude malgré les 2 degrés au niveau de la pelouse ou 1 degré comme vous le disiez. Le PSG est-il favori de cette compétition, de cette confrontation où il va jouer donc sa survie, hein, évidemment gagner simplifierait tous les problèmes. Selon certains Parisiens, on entend qu'il y a un avant et un après Liverpool, et justement contre Liverpool au Parc des Princes il y a 15 jours, on avait vu une étoile briller dans cette équipe, et je dirais enfin c'était Neymar dont Kylian Mbappé, eh bien évidemment ne tarit pas d'éloges. Écoutons-le, hier vous l'avez suivi en conférence de presse.
On s'entend de mieux en mieux, on se connaît beaucoup plus aussi. Après, je pense que je suis bien placé pour parler de l'importance de Neymar. Je pense que chaque équipe qui a un joueur de cette qualité, il y en a vraiment pas beaucoup qui en ont un. C'est un avantage énorme pour nous. On va voir toute la qualité qu'il a pour nous aider à gagner.
Ce n'est pas le seul atout Neymar, mais évidemment ce soir, quand Hervé faisait allusion à cette Coupe du Monde où il avait un peu tout sur les épaules, et on se souvient des JO au Brésil où il avait aussi toute la population et là où il les a emmenés à la victoire, c'est l'homme qu'on attend ce soir, selon vous, Christophe ?
Oui, on attend bien sûr Neymar. En plus, on en a d'autant plus parlé ces derniers jours qu'il y a eu cette rechute là face à Bordeaux après sa blessure aux adducteurs qui s'était produite contre le Cameroun en match amical. Donc là, effectivement, hier Tourelle a été tout à fait rassurant. Il s'est entraîné avec les autres sur la pelouse effectivement du Maracana. Et Neymar, en plus, a déjà marqué 3 buts contre cette étoile rouge de Belgrade au Parc des Princes au match aller entre guillemets. Effectivement, si Neymar est à la hauteur de ce qu'il a produit contre Liverpool dans ce match où le PSG a enfin montré le caractère qu'on attend d'une équipe de ce standing, et même sur le début du match de Naples, hein, parce que le match à Naples au San Paolo, Neymar avait été très très bon. S'il était à ce niveau-là, ça peut aller vite, tourner vite en faveur du Paris Saint-Germain dans un match où le PSG est évidemment favori face à cette équipe de l'étoile rouge, même si, alors on peut toujours effectivement modérer, nuancer, en mettant, en rappelant effectivement, comme l'a fait Hervé, que c'est un résultat heureux face à Naples ici, ce 0-0, mais ils ont aussi battu Liverpool en faisant le dos rond, en n'ayant pas la possession du ballon, loin de là, puisqu'ils avaient le ballon un tiers du temps environ l'étoile rouge, et ils ont su, en étant efficaces sur les contres, en misant aussi sur la grande taille de Pavkov, leur attaquant de pointe, et ben gifler cette équipe de Liverpool qui est repartie avec une défaite, ce qui fait que finalement, quand on se replace au coup d'envoi de cette phase de poule et qu'on voyait l'étoile rouge revenir en phase de groupe de la Ligue des Champions, elle était toute désignée, cette étoile rouge, pour finir dernière de son groupe. Et puis ben voilà, les deux Naples sont passés, Liverpool est passé également, et ni l'un ni l'autre ne s'est imposé ici au Maracana. Donc contexte quand même compliqué pour un PSG qui aura à faire valoir quand même ses progrès sur ses dernières sorties européennes.
Eric, vous qui dites que vous ne tremblez pas, est-ce que finalement...
Parce que moi, je regardais son fauteuil depuis tout à l'heure, je voyais d'aller de droite et de gauche.
Je sentais qu'il tremblait. Moi, je joue rien.
Non, je sais bien, mais vous avez quand même un regard plus que intéressé par rapport à ce club. Est-ce que le PSG et Neymar vont puiser leur force finalement dans cette victoire qu'ils ont remportée l'autre jour au Parc des Princes pour continuer sur le chemin de la Ligue des Champions ?
Ah ben j'espère. En tout cas, c'est de toute façon les ingrédients qu'il faudra pour faire un match sérieux là-bas. Parce que si vous comptez que sur Neymar, ça va être plus compliqué que prévu. Neymar est l'homme fort du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est pas Mbappé, c'est Neymar, parce que Neymar organise le jeu et est plutôt décisif. Mbappé est encore loin d'être décisif pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Oui. Alors, il doit digérer sa Coupe du Monde forcément, mais non, on a besoin de cet esprit de solidarité. C'est ça qui est sorti du match de Liverpool.
Ils ont montré qu'ils peuvent l'avoir.
Donc ils peuvent l'avoir, c'est ça. On l'attendait depuis un petit moment, parce que sur un match important, on avait toujours vu un PSG un petit peu petit peu tanguant de droite à gauche. Là, ils ont été solides, ils ont tenu le résultat, ce qui leur arrive pas toujours. Et je voulais juste revenir sur Liverpool. Liverpool a perdu ses trois matchs à l'extérieur. Donc, c'est vrai que c'est voilà, la performance de Liverpool à l'extérieur n'a rien à voir avec celle à domicile. Donc, c'est pour ça que on peut aussi tempérer.
Relativiser Philippe Doucet.
C'est un groupe d'ailleurs absolument incroyable parce c'est fou, ouais. Liverpool, en perdant trois matchs à l'extérieur, peut encore se qualifier.
C'est incroyable.
Est en position de se qualifier, alors que Naples, qui n'a toujours pas perdu un match, pourrait être éliminé ce soir. C'est un scénario assez étonnant qui a tourné quand même sensiblement pour le Paris Saint-Germain à partir de l'égalisation contre Naples. Depuis, les choses se sont bien arrangées.
Ça favorise le Paris Saint-Germain ?
Le scénario ?
Oui.
Oui, évidemment. Il est idéal de jouer l'étoile rouge au dernier match, alors que Liverpool et Naples jouent l'une contre l'autre. Évidemment, c'est un scénario idéal. Mais bon, voilà, c'est l'histoire de ce groupe, c'est que le Paris Saint-Germain l'a renversé en égalisant contre Naples lors du match aller, parce qu'à ce moment-là, c'était quasiment mort. Hein. Ça aurait été irrattrapable.
Ah oui, quasi irrattrapable. Je pense que ça aurait été
difficile. Thomas ? Oui, il faut rappeler qu'il y a quand même un enjeu ce soir pour l'étoile rouge. C'est pas un match de gala, un match de prestige. S'ils gagnent, ils peuvent, ça dépendra de l'autre rencontre, mais éventuellement terminer troisième et donc être renversé en Ligue Europa.
Et oui, et puis il y a un peu plus que ça, parce qu'avec toutes les histoires qu'il y avait eu après le match aller, rappelons-nous cette histoire de Paris truqué et toutes ces choses-là, ils avaient été dénoncés auprès de l'UEFA. Il y a une enquête qui a été menée. Alors ça n'avait rien à voir avec le Paris Saint-Germain.
Rien d'ailleurs,
avec le PSG, les conclusions sont net, il y a rien à voir avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. Mais il n'empêche qu'il y a une enquête, mais il n'empêche qu'il s'est passé quelque chose, et il n'empêche que ça a fait réagir au pays. Et là-bas, ils l'ont pris un peu comme une insulte, c'est-à-dire montrer du doigt le club, et eux étant très nationalistes, mais comme d'autres pays d'ailleurs, ils l'ont très très mal pris. Et il y a une forme de sentiment de revanche qui est plus lié simplement au groupe, mais qui est lié à cet affrontement particulier contre le Paris Saint-Germain. Alors, est-ce qu'on peut trouver là-dedans des ressources supplémentaires ? J'en sais rien, mais ce qui est certain,
c'est que
l'entraîneur et certainement les dirigeants, ils vont jouer là-dessus.
Ouais, bien sûr.
Christophe Jousset, avant de vous libérer, une dernière question. Quelle est la force justement de cette équipe de l'Étoile Rouge au-delà du contexte ? Il y a un joueur comme Aurien notamment qui s'est fait remarquer parce que c'est un buteur.
Oui, c'est alors il a un nom très composé.
Oui.
Il s'appelle El Fardou Ben Mohamed Nabouane, comorien international, comorien qui aux Comores est couramment appelé Ben Fardou. Bon, lui, c'est vrai que les gens l'adorent ici parce que il est l'homme du retour de l'Étoile Rouge en phase de groupe de la Ligue des Champions, 27 ans après la finale gagnée contre l'OM à Paris en 1991. C'est lui qui avait marqué le doublé contre Salzbourg dans le barrage retour, alors que son équipe était menée 2-0, et ce 2 partout avait qualifié donc l'Étoile Rouge pour les poules. C'est pour être honnête, c'est pas lui l'homme clé de cette équipe. Il y a Marco Marin qui joue ce rôle avec la qualité de passe, la qualité de centre aussi, notamment sur les corners. Hein. Il est capable de servir Pavkov, l'attaquant de pointe qui a marqué les deux buts contre Liverpool. Marco Marin qui a une trajectoire très intéressante aussi. On aura sans doute l'occasion de vous la raconter avec Hugo Moissonnier ce soir à l'occasion de ce direct en intégralité. Il a été international allemand. Il était dans le groupe de l'Allemagne à la Coupe du Monde 2010. Bon, il n'avait pas beaucoup joué, mais Marco Marin a un peu roulé sa bosse à travers l'Europe et aujourd'hui, et depuis l'été dernier, avec son numéro 17 dans le dos, c'est lui l'homme clé de cette étoile rouge de Belgrade.
Eric Rabessandra Tanassi, vous étiez en défense dans ce Paris Saint-Germain.
Il donnerait des coups, on connaît.
À la place de Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe. De qui vous méfieriez-vous le plus ? D'une individualité de l'étoile rouge
Moi, je pense que c'est le même
l'état
si.
L'état d'esprit.
Maintenant, c'est le contexte et puis l'équipe qui a besoin de jouer quelque chose, elle joue encore quelque chose en Coupe d'Europe, donc elle va être poussée par un public qui va être un peu fou, même si ce sera pas forcément une pression supplémentaire. Donc ça peut être des facteurs qui font que cette équipe va décupler un peu sa performance et va vous mettre en difficulté, mais faudra répondre. Il y a pas de secret. Hein, c'est un affrontement. Il faut répondre et puis après faire la différence techniquement. C'est surtout ça. Être solide dans les duels parce qu'il y aura forcément ils vont être titillés dans les duels. Et puis après techniquement normalement ils doivent faire la différence. C'est ça la force du Paris Saint-Germain. C'est d'être capable de tenir Et après de faire la. J'espère qu'on aura un grand Thiago Silva et un grand Marquinhos comme le match de Liverpool.
Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain s'est rarement planté en Ligue des Champions contre des adversaires c'est supposés ça. Inférieurs. Hein, chaque fois qu'ils ont perdu, bon, ça a été, on se souvient des dernières éliminations, mm-hmm. c'est toujours contre du costaud. Mais en général, en phase de poule, ils sont présents sur ce type de match. Donc je les vois mal en difficulté. Enfin, en difficulté,
après,
ils seront en difficulté.
Le scénario a changé un peu, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir en difficulté aussitôt dans
avec
dans
autant
la compétition.
De bonnes équipes dans un groupe.
Ouais, ouais.
Philippe, sur justement cette étoile rouge, jouer la Ligue Europa pour eux, ça a une importance, j'imagine, de rayonnement pour cette équipe qui gagna par le passé une Ligue des Champions.
Bien sûr, ce sont des clubs aujourd'hui. On peut parler de l'étoile rouge, comme de l'Ajax, comme d'un certain
Eindhoven
nombre de Benfica, mm-hmm. d'un certain nombre de grands clubs qui ne peuvent plus aujourd'hui gagner la Ligue des Champions. Totalement impossible. Ils ont pas le niveau, pas l'argent, tout simplement. Il y a des écarts qui sont devenus abyssaux et qui ne permettent plus à des clubs des grands clubs de cette facture de remporter la Ligue des Champions. Donc pour eux, jouer la Ligue Europa, évidemment, très important, parce que les expériences européennes, bah, à part jouer, bon, l'Ajax, là, va jouer les huitièmes de finale, mais ça fait combien d'années que l'Ajax n'avait pas joué, donc c'est très rare. Donc quand ils ont l'occasion en Europa League, c'est une occasion sur laquelle ils ne crachent pas dessus, à la différence d'un certain nombre de clubs qu'on connaît et qui estiment que l'Europa League, c'est la gnognotte. Et non, l'étoile rouge. Moi, j'ai connu pour finir sur le Maracana, j'ai connu ma plus belle soirée de football là-bas. En 91, en demi-finale contre le Bayern, avant de retrouver donc l'Olympique de Marseille en finale.
À Paris.
La demi-finale était sur le plan émotionnel.
Ah,
sur
il était beaucoup plus vieux que je n'y parais, alors.
Non, mais j'avais deux ans.
Philippe,
j'avais deux ans. J'avais deux ans et Thierry Gilardi commentait avec moi. Et...
Il y avait d'autres joueurs aussi, la qualité de.
Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais au niveau émotionnel, je me rappelle encore comme si c'était hier, parce que c'était. Ils avaient chanté pendant une demi-heure après le match. Ils chantaient Le Temps des Gitans, Eder Lézy, la manière. Magnifique chanson, on était émus aux larmes, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a ce côté quand même un peu magique autour de ces clubs-là, pour finir de répondre, il y a quand même une certaine magie autour de ces clubs-là, qui malgré, même s'ils n'ont pas le niveau du Paris Saint-Germain, il n'y a pas photo, malgré tout, il y a quelque chose qui est incarné par ce type de club.
Non, les supporters parisiens chantent Le Temps des Cerises.
Le Temps des Cerises, Le Temps des Gitans, fabuleux film de Kusturica. Christophe Jousset, vous voilà donc dans l'ambiance, on vous promet une super ambiance ce soir, et vous serez avec Hugo Moissonnier donc, ainsi que Tom Rossi ici à Paris, à partir de 20h55 pour nous relayer ce match.
Oui, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Merci beaucoup.
Oh là là, on a match.
Merci beaucoup, merci. Christophe.
Merci.
À Anfield, les Reds, donc, peuvent-ils, d'une certaine façon, aider les Parisiens? Philippe Doucet, je vous regarde, parce que ces Parisiens, finalement, ils se retrouvent aussi, s'ils ne gagnaient pas, dépendants du résultat qui donc se déroulera du côté de Liverpool entre Liverpool et Naples. Naples premier du groupe, hein, on le disait tout à l'heure, hein, lui il n'a pas perdu de match, invaincu. Liverpool, c'est exactement le contraire, et malgré tout dans ce groupe dit de la mort au moment du tirage au sort, c'est une équipe qui peut encore se qualifier.
Pour une fois, le groupe de la mort a été le groupe de la mort. Ça arrive rarement. Non, ça arrive très rarement. À chaque fois, nos pronostics sont déjoués au bout de 4 journées, le groupe est joué. Là non, ça a vraiment été le groupe de la mort. Et le Paris Saint-Germain a frôlé le pire à la troisième journée lorsqu'ils étaient menés contre Naples. Et là, c'est Liverpool qui est en immense difficulté. Alors qu'honnêtement, avant le match retour à l'Étoile Rouge, ça paraissait vraiment c'était tapis rouge. Vraiment, on voyait aucune difficulté pour la qualification de Liverpool. C'est tout le contraire. Ils ont perdu ces deux matchs à l'extérieur. Maintenant, ils sont condamnés à une grande soirée européenne dont ils sont coutumiers. Ils savent le faire. J'ai bien peur que la victime de ce groupe devienne Naples, qui a peut-être été la meilleure équipe des trois, et qui, à l'arrivée, va peut-être être éliminée. C'est la vie. C'est la vie du foot.
Justement, on va écouter Carlo Ancelotti, l'entraîneur de cette équipe de Naples. Carlo Ancelotti, qui, vous allez l'entendre avec humour, présente l'enjeu de cette partie.
Bien sûr que c'est un test très important pour nous. C'est la possibilité de sortir d'un groupe très difficile qui se joue. Nous devons être sereins, avoir conscience que nous jouons le dernier match décisif et nous avons un petit avantage. Comme je l'ai déjà dit, nous avons déjà cuisiné le gâteau. Il nous faut maintenant la cerise.
Il garde donc la cerise dans son armoire encore. Ça, c'est du Carlo Ancelotti.
Ouais. Mais Carlo Ancelotti, il est incroyable de ce côté-là. Mais je pense que Naples va vendre cher sa peau aussi. Attention, hein, parce que c'est vrai que Philippe dit que Liverpool a l'habitude des grandes soirées européennes. Mais je trouve que cette année, Naples est quand même très intéressante et va peut-être rendre service à Paris, parce que Naples peut rendre service à Paris aussi. C'est-à-dire que si Naples fait match nul là-bas, il y a aucun problème pour les Parisiens. Donc ça peut être aussi de ce côté-là.
Hervé, ils sont peut-être sur leur lancée de championnat là, où on a l'impression de retrouver Mohamed Salah, même si évidemment Bournemouth n'est pas vraiment comparable à Naples.
Mais tout à fait le même niveau.
C'est pas le même niveau, mais ça peut être une belle mise en jambe.
Ah bah c'est sûr, vaut mieux arriver avec cette victoire-là et puis le triplé de Salah qu'avec une défaite. Mais on a quand même la sensation que Naples a aussi des atouts. Et il y aura la capacité, surtout qu'ils ont des joueurs qui vont vite en contre-attaque. Il va pas falloir qu'ils prennent de risques. Alors la grande force de Liverpool, parce qu'on parle toujours de son attaque, mais c'est aussi sa défense. Ils prennent très peu de buts. Alors s'ils restent solides derrière, on a toujours la sensation qu'un Salah, qu'un Mané, qu'un Firmino, ils sont capables de faire le petit exploit. Maintenant, ça va être très serré. Ça va être un match à suivre.
Ouais, c'est intéressant comme match.
Match à suivre, Ligue des Champions à suivre. On fait une pause dans Radio Foot International, dans cette Ligue des Champions. On fait une pause parce qu'on part du côté de Monaco à la rencontre, plutôt à l'écoute d'un grand champion.
Didier Drogba. Le mur n'est pas à distance réglementaire. Didier ! Goal ! Goal ! Goal ! Goal ! Goal !
Didier Drogba, notre invité exceptionnel aujourd'hui. Didier Drogba, bonjour.
Bonjour.
On s'était vu il y a un an en Mauritanie,
bon,
n'est-ce
pas ?
Je vais bien, et vous ?
Très bien, merci.
Bon, vous êtes toujours au bord de la mer, je remarque, hein, puisque
de
Nouakchott à Monaco, eh bien, il y a la mer en commun, en tout cas le large. Vous avez annoncé votre retraite il y a moins d'un mois sur les réseaux sociaux. Je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui finalement se sont retrouvés orphelins de votre style, de votre jeu, de tout ce que vous avez fait dans le football. Est-ce que c'est fini les entraînements, ça vous fait du bien?
C'est fini, effectivement, les entraînements. Si ça me fait du bien, je pense que là, j'ai l'impression d'être dans une période de vacances. Donc, ça me manque pas tant que ça.
Alors, vous avez enlevé les crampons, mais peut-être, je sais pas, vous allez nous le dire, mais une cravate, parce que vous vous trouvez à Monaco, qui est le siège d'une association qui s'appelle le Forum Peace and Sport, la paix par le sport, et vous en devenez vice-président. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire, et est-ce que finalement vous choisissez une retraite diplomatique ?
En fait, c'est un peu dans la continuité de ce que j'ai pu faire déjà de mon côté avec par mon message de Khartoum, mais aussi ça fait un an que je suis un champion pour la paix, pour Peace and Sport. Et aujourd'hui, avoir la chance d'être nommé vice-président de cette organisation, pour moi, c'est un honneur, et puis c'est une continuité. Voilà, la diplomatie par le sport, c'est ce que j'aime, et c'est ce qui me correspond le plus.
Alors d'abord, dans cette association, il y a beaucoup de sportifs, pas forcément d'ailleurs tous éloignés de leur lieu d'exploit, mais il y a des sportifs, il n'y a pas que des footballeurs.
Non, il n'y a pas que des footballeurs. Il y a par exemple... j'ai oublié son nom, en plus j'étais avec lui. Il y a Ladji Doucouré, par exemple.
Oui, coureur du 110 mètres.
Voilà. Pardon ?
Oui, je sais que comme footballeur, il y a par exemple Blaise Matuidi qui est parmi vous, mais c'est pas.
Il y a Blaise, oui, qui nous a rejoint aussi, et je suis très 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 honoré, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui fait beaucoup aussi pour la paix.
Qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose pour la paix pour vous en tant qu'ancien footballeur? Parce que tout le monde se souvient de votre appel que vous aviez lancé il y a bien longtemps, mais c'était lorsque vous jouiez avec l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous a donné envie d'avoir ce rôle aujourd'hui.
Oui, en fait, être champion pour la paix, c'est tout simplement par le sport, pouvoir poser des actions. Par exemple, je me suis retrouvé avec toute l'équipe de Peace and Sport, on est parti en Colombie. Tout le monde sait que c'est un pays qui a été très, très touché par les crimes. On a fait face à des jeunes qui ont eu vraiment de gros problèmes.
Oui, c'était une guerre larvée, une guerre civile, avec le narcotrafic et les milices militaires.
Les drogues et tout, militaires. Donc, aller là-bas, leur apporter notre soutien et puis rapprocher les gens, les rapprocher les uns des autres et par le sport, en créant des activités, en ce qu'on appelle nous le sport simple, c'est-à-dire construire par exemple un ballon de football avec du tissu ou créer des activités qui vont les sortir d'un environnement malsain et ça par le sport.
Quels sont les grands projets peut-être que vous avez, vous qui avez été une si grande star du football et notamment en Afrique, mais on sait que votre aura vient bien au-delà, mais est-ce que le continent africain sera particulièrement l'endroit où vous développerez des projets?
Oui, c'est partout dans le monde, mais c'est vrai qu'en Afrique on a les Jeux de l'amitié qui sont organisés tous les ans depuis 10 ans au Rwanda, avec le Burundi et la République démocratique du Congo. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Tout le monde connaît la situation là-bas qui a été plusieurs fois critique. Donc il y a des actions à mener là-bas et je me réjouis d'y aller. Excusez-moi pour ma voix, hein. je suis un peu malade et...
Vous êtes... Non, ouais. Oui, c'est l'hiver en Europe et c'est vrai que du coup on est plus sensible au froid. Thomas Saint-Léger.
Oui, bonjour Didier. Récemment, de nombreux anciens footballeurs africains se sont investis dans la vie publique. Je pense à Bonaventure Kalou et bien sûr Georges Weah. Pensez-vous, vous aussi, c'est la vie publique et d'une autre manière, vous aussi, vous vous impliquez. Pensez-vous qu'avec leur aura auprès des populations, les personnalités connues du sport ont une responsabilité à ce niveau-là?
Après, c'est pas forcément... Tous les sportifs, mais je pense que ça dépend de tout un chacun. Moi, je pense qu'il y a plusieurs manières d'apporter son soutien au peuple et il y a plusieurs moyens d'agir. Alors, eux ont choisi la politique telle qu'elle. Et moi, je choisis plutôt quelque chose d'apolitique, sachant que le siège de Peace and Sport est basé à Monaco et que c'est plus facile de faire passer des messages de paix lorsqu'on a une position apolitique. On peut facilement approcher des gouvernements et avoir un impact, beaucoup plus d'impact que lorsqu'on est dans la politique. Je pense que vous êtes d'accord avec moi.
Oui, je parlais de la responsabilité. Est-ce que vous sentez que vous avez une responsabilité par rapport au fait que vous êtes connu, que vous inspirez des gens?
On profite de ça, effectivement. On profite de cette célébrité-là pour faire passer des messages. Mais une responsabilité, c'est un bien grand mot, mais c'est une envie, surtout.
Lorsqu'il y aura des jeux de l'amitié en Afrique, vous allez vous déplacer? Vous avez des activités, des matchs, justement, avec les enfants que vous disputerez? Ou peut-être vous leur donnerez des cours, comment on marque de la tête, comment...
Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Avec plaisir. Non, c'est vrai qu'il y aura pas mal d'activités, et comme en Colombie, j'y ai pris part et je le ferai encore. Et c'est vraiment un bonheur de participer à ce genre d'activité et de voir les enfants, surtout de toutes générations, s'impliquer vraiment et voir qu'ils sortent de leur quotidien qui n'est pas forcément le meilleur grâce au sport.
Philippe Doucet, vous avez une question pour Didier Drogba ?
Mais bien sûr, j'ai toujours une question
Philippe
pour Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Philippe Doucet.
Je me posais la question parce que la retraite est récente. Quelle va être la nouvelle vie de Didier Drogba entre Phoenix, entre la fondation qui est très active en Côte d'Ivoire et en Afrique, et puis donc cette nouvelle mission, mais il y en a peut-être d'autres encore que j'oublie. Quel va être l'équilibre de vie de Didier Drogba pour la suite ?
Bah pour l'instant, j'ai vraiment passé du temps avec ma fondation et puis Saint Sport pour mettre en place les différents projets et les autres petit à petit suite à une réflexion pendant forme et à ce moment-là au moment opportun j'en parlerai.
Hervé Penaud, est-ce que vous avez une question pour Didier Drogba
avant qu'on
le laisse à Monaco?
Oui.
Ouais. Une question, je voulais savoir justement où s'en était la fondation, puis où s'en était avec l'hôpital qui a été mis en place, plus tout ce que tu comptais faire en Côte d'Ivoire. Et j'imagine que la Côte d'Ivoire va être aussi un pays d'accueil pour le Peace and Sport.
Bien sûr. Ben, la fondation se porte plutôt bien. Là, on a démarré une campagne de dépistage sur 3 mois. Donc, avec la clinique mobile, on se déplace dans plusieurs communes, dans 10 communes d'Abidjan, on va faire des campagnes de dépistage cardiaque. Il faut savoir que en Afrique, l'une des causes principales de mortalité, c'est bien sûr la malaria, mais aussi les maladies cardiovasculaires. Donc, en allant vers les gens, en allant vers le peuple et leur donnant l'opportunité de savoir s'ils sont en bonne santé ou s'il faut faire un suivi, je pense qu'on leur apporte un petit plus. Et voilà, il y a pas mal de choses comme ça qu'on essaie de développer. Et la retraite va me permettre vraiment d'être impliqué beaucoup plus et d'être là lors de ces actions aussi.
Thomas, tiens, Léger, une dernière question.
Oui, cette retraite, elle est toute récente, Didier, un mois, je crois. Qu'est-ce qui vous manque et au contraire, qu'est-ce qui ne vous manque pas de votre vie de footballeur ?
Pour l'instant, rien ne me manque. Pour l'instant, je suis content, je suis heureux. Je suis parti 2 semaines en tant qu'ambassadeur de Chelsea en Asie, en Europe. Donc, j'ai fait une belle tournée qui m'a permis. En fait, c'est un peu comme une tournée d'adieu où j'ai pu rencontrer les fans. Et qui m'ont rendu un vibrant hommage. Donc non, j'ai pas eu le temps de respirer. Je suis vraiment très occupé depuis ma retraite. Donc je suis vraiment content.
Hervé, encore un petit mot ?
Non, mais ce qui est très drôle, en fait, c'est de penser qu'on s'était rencontrés très jeunes. On était jeunes et beaux. C'était notre époque. Et le temps passe. Il avait toujours dit, j'irai jusqu'à 40 ans.
Et effectivement, et vous l'avez cru.
Non, enfin, sur le coup, pas tellement. Parce qu'à 40 ans, pour un attaquant de pointe, vous vous rendez compte ce que c'est. Un défenseur, déjà, c'est dur. Un gardien, pourquoi pas. Mais un attaquant, c'est rarissime. Et effectivement, il allait jusqu'à 40 ans, donc chapeau.
Bon, Didier Drogba, alors, vous avez tenu parole. Le football vous manque-t-il ? Est-ce que vous entrez dans un stade avec un bonnet, des lunettes noires, discrètement, pour aller voir des matchs ?
Non, c'est ce que je dis, Annie. J'ai pas eu l'occasion, justement, d'aller voir un match. C'est récent, la retraite est récente. Et puis, ça viendra sûrement. J'irai voir des matchs et tout, mais pour l'instant, je suis bien occupé j'étais bien occupé par ce rôle d'ambassadeur de Chelsea. Et là, j'attaque maintenant avec Peace and Sport en tant que vice-président et j'aurai beaucoup de boulot et. Forcément, le terrain va me manquer, mais c'est pas.
Il y a Monaco-Dortmund ce soir, ça va être passionnant.
Ça sera mon premier match. Ça sera mon premier match. Je vais soutenir Thierry.
Ah oui, exact.
Alors là, oui. Je pense qu'il sera
c'était
sensible.
Son idole quand il était jeune.
Oui.
Ah, il adorait. Hein. C'était quelqu'un que tu regardais quand en 98, il regardait Thierry Henry. Donc c'est vrai que c'est drôle.
Effectivement.
Bon, et ben voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup Didier Drogba d'avoir été en direct dans Radio Foot International. On vous attend ici dans le studio à Paris quand vous voulez.
Avec plaisir. Merci.
Merci et bonne chance dans votre nouvelle fonction de vice-président de Peace and Sport. À bientôt.
À bientôt.
retour au terrain, comme disent les sportifs.
Non, on se fait quand même pas trop de soucis sur l'avenir d'Didier Drogba.
Je pense qu'il est.
S'inquiète pas.
Il doit être très courtisé, il doit avoir plein de propositions.
Malgré tout, il faut quand même faire les bons choix. Quand on a beaucoup de choix, il faut faire les bons quand même.
Mais jusqu'à présent, il s'est pas tellement trompé sur son parcours. Donc, bon, on peut imaginer.
Il prend le temps, il prend le temps. C'est ça, c'est ce qui fait la différence, d'avoir le temps pour réfléchir.
Ça aide. Et c'est un espèce de sas, effectivement, cette fonction de vice-président d'une association qui lui permettra à la fois de faire plaisir à des milliers de fans, parce que on l'avait vu en Mauritanie, comme les enfants le suivaient, l'écoutaient, et la patience qu'il avait, il se prenait en photo avec eux au centre de formation de Nouakchott, là c'était passionnant. Revenons à la Ligue des Champions, on était avec
qui l'a gagné avec
Liverpool, mais surtout ce qu'on se disait, Thomas Saint-Léger, c'est que Liverpool est en danger d'être éliminé peut-être dès la phase de poule. Écoutons d'abord Jürgen Klopp, parce que Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds, il le sait qu'ils ont eu des défaites et il le sait que finalement ils ont peut-être une chance incomparable.
On savait à quel point ce serait difficile. Et c'est sûr, la position de Naples est plus enviable que la nôtre. Un nul peut leur suffire. Ils peuvent même perdre et poursuivre leur route. Mais ça, ils le méritent. Nous, il nous reste une chance. Et on peut déjà s'estimer heureux. Nous devons en profiter. C'est bien sûr ce que nous allons essayer de faire. Vu comme ça, tout va bien. N'oublions pas non plus que Belgrade a joué un vrai rôle dans cette poule. Pas seulement celui de faire valoir. Peu de monde s'y attendait, mais voilà la situation. Il nous reste une chance. À nous de la saisir.
Voilà, il y avait 4 places, il y en a 2 à prendre encore dans ce groupe et il y en a 3 qui peuvent la prendre. Qu'est-ce qui peut se passer, Thomas?
Ben tout, on est là. Sans équipe qui peut se qualifier.
Sauf si le PSG gagne, lui, dans ce cas-là, oui. Il assure sa qualification.
Non, mais surtout, ce qui peut se passer, c'est le finaliste sortant sorti. Et ça, c'est assez rare comme cas de figure. La dernière fois que ça s'est produit, saison 2011-2012, Manchester United, sorti d'une phase de groupe avec Bâle et le Benfica, si je dis pas de bêtises. Et ouais, ils avaient terminé 3e à ce moment-là. Alors, pour rassurer un peu Jürgen Klopp, les performances de Naples en terre anglaise en compétition européenne, c'est pas terrible. 2 nuls, 3 défaites et donc aucune victoire en Angleterre pour le Napoli. Mais un nul peut suffire.
Ce qui est incroyable, c'est que ces 3 équipes, elles ont juste à gagner. Alors bon, après, il y a différents calculs à faire, mais faut déjà gagner son match. C'est quand même pas donné à tout le monde à chaque fois d'avoir cette chance.
Et il le dit d'ailleurs.
Chacun a son destin entre ses mains.
Voilà ça.
En même temps, il y a des cas de figure pour le Paris Saint-Germain. Alors, une défaite à Belgrade avec une victoire de Liverpool face à Naples et le PSG serait éliminé. Il y a 3 scénarios. Un match nul à Belgrade et avec une victoire de Liverpool par plus d'un but d'écart contre Naples, il serait aussi éliminé. Et puis le match nul à Belgrade avec une victoire où il y aurait plus d'un but d'écart, mais que Naples ne doit pas inscrire plus de 3 buts. Ça simplifie les hypothèses et ça simplifie tout, mais en tout cas il y a évidemment beaucoup de cas de figure et ce soir, eh bien, l'issue de Radio Foot du match, pardon. Non, on leur prête
Radio
notre horaire.
Radio Foot ne dépend pas du match, rassurez-moi.
Non,
le match dépend peut-être de Radio Foot.
En tout cas pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent. Bon, et puis il reste donc encore des places. Hein, on l'avait dit, il y en avait encore 4 et il y en a. Eh bien, c'est dans le groupe C, celui du Paris Saint-Germain. Et puis le groupe B, alors là, il y a le Barça, Tottenham, Inter et Eindhoven. Le FC Barcelone, Alejandro Valente, est soulagé. Ils sont déjà qualifiés. Peut-être pas premiers du groupe, ça on le verra ce soir. Mais surtout, eh bien, on a... ils sont déjà premiers, pardon. Oui,
c'est sûr.
Au nombre de points. Tottenham et l'Inter jouent ce soir leur qualification. Tottenham joue au Camp Nou. Et là, ça paraît compliqué. L'Inter reçoit le PSV à Eindhoven. Est-ce que les Spurs sont en danger? En tout cas, est-ce que le Barça, qui joue à domicile, pourrait ne pas trop se motiver sur le match? Les Interistes, qui jouent à Milan chez eux, ne veulent même pas imaginer cette hypothèse. Écoutons Luciano Spalletti.
Je pense que c'est offensant envers Barcelone de mettre en doute leur éthique. Le Barça a toujours prouvé son sérieux. Nous devons gagner cette rencontre en ne pensant qu'à ça, pas ce que fera le Barça. Ce sont des vrais professionnels, c'est grâce à ça qu'ils sont là aujourd'hui.
Alors justement, la grande question, eh bien, c'est est-ce que les interistes sont ont un avantage, on va dire, Hervé, par rapport à Tottenham qui se frotte au Blaugrana chez eux au Camp Nou.
Ah bah oui, inévitablement, il y a un avantage, ça, il y a absolument rien à dire, parce que même un Barcelone qui peut laisser couler. Perdre à domicile, c'est compliqué. Alors c'est vrai qu'on l'avait vu avec Manchester City, perdant, Manchester City perdant contre Donetsk une année, hein, ou Manchester United, un des deux Manchester, parce que sur un dernier match de poule, qu'on est déjà qualifié, puis ils sont sûrs d'être premiers, ça peut laisser un petit avantage à l'adversaire. Mais il n'empêche que ce Barcelone-là, je le vois pas quand même tomber chez lui. Même un match nul, ce serait pas une bonne opération, parce qu'on imagine quand même l'Inter battre PSV. PSV, c'est une équipe qui a récupéré qu'un seul point depuis le début de la saison. Maintenant, ils se sont donné le droit de rêver, Tottenham, lors de la dernière journée, battant l'Inter. Donc ça, c'est, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont encore une chance, bah, à eux de la saisir, quoi.
Philippe ?
Oui, non, l'Inter a l'avantage du calendrier, mais bah, Tottenham, par contre, a l'avantage du classement. C'est-à-dire que s'il y a statu quo, de nul ou de victoire, c'est Tottenham qui passerait, ce qui est déjà un scénario un peu surprenant dans ce groupe où Tottenham était complètement largué avant les deux matchs face au PSV Eindhoven. Mm-hmm.
Est-ce que vous imaginez une victoire de Tottenham au Camp Nou, vous, Eric ?
Non, moi j'ai du mal à croire que Tottenham est capable d'aller... Enfin, est capable. Si, ils sont capables d'aller gagner au Camp Nou, mais... Je vois pas Barcelone jouer à moitié ce match parce que voilà non je pense qu'ils vont faire le boulot. Alors après ça peut finir en match nul, ça dépendra aussi de l'Inter par rapport à leur match, mais je vois pas Barcelone perdre contre Tottenham.
Justement l'Inter Milan on les voit cette année plutôt bien en Serie A, même si on sait que la Juve fait souvent cavalier seul pour ce qui est de la dispute du titre, mais cette année c'est peut-être un peu différent, et surtout on a l'impression que l'Inter va mieux. Hervé, cette Inter de Spalletti, c'est peut-être leur chance justement de poursuivre la compétition et jouer cette chance à domicile dans leur San Siro, c'est quand même important.
Ah bah c'est sûr qu'ils ont en tout cas des cartes en main, mais c'est vrai ce que rappelait Philippe, et ça c'est important, ils ont pas toutes les cartes en main, hein, parce que ça dépend pas que d'eux, ça dépend aussi de l'autre côté, de ce que va être capable de faire Barcelone. Maintenant, cet Inter, vous savez, il y a toujours beaucoup de déceptions autour de l'Inter. On a toujours cru qu'il reviendra au très haut niveau, et puis chaque fois, il manque quelque chose. Alors, on espère que cette année, ils vont être capables enfin, avec le renouveau du football italien, parce qu'on sent quand même un football italien qui redevient fort. Alors, est-ce que c'est lié
qui peut qualifier ces quatre équipes.
Ouais, qui peut qualifier ces quatre équipes. Alors, je dis pas que c'est lié à l'arrivée de Ronaldo, certainement pas, mais en tout cas, le fait même qu'il soit parti là-bas, ça a donné un coup de projecteur sur le championnat. On a l'impression que le championnat est tiré vers le haut. Et ben, c'est peut-être le renouveau, vraiment, du foot italien. Et ça, ils peuvent le prouver déjà ce soir, parce que éliminer Tottenham serait bien, parce que le plus grand championnat du monde, et avec Tottenham éliminé, et d'autres, peut-être. Et ben, c'est bizarre.
Philippe, cette équipe de l'Inter est-elle supérieure à Eindhoven ?
Le PSV n'a pas été ridicule du tout. Mm-hmm. Hein. Il était dans un groupe dit de la mort, comme on dit.
Ah, mais dès que tu parles des groupes, tu veux des groupes de la mort.
Mais c'est le faux.
Mais en fait, le PSV.
C'est que le groupe B, quand même.
Ouais. En fait, le PSV n'a fait qu'un seul point. Mais honnêtement, il a été compétitif très souvent. Il a souvent accroché les gros de ce groupe. Alors, le problème, c'est qu'il y en avait trois. Alors, ça faisait beaucoup pour eux. Ils ont perdu quatre fois. Mais. De justesse en dehors du match au Camp Nou où là ils avaient explosé très très logiquement. Pour le reste, ils ont perdu de justesse, ils n'ont pas été si mauvais que ça. Je pense pas que l'Inter ait une marge si conséquente que contre le PSV. Je pense qu'ils gagneront parce qu'il y a une motivation évidente pour réussir ce résultat-là dans les circonstances, dans le contexte de ce match, de cette sixième et dernière journée. Mais à la base, il n'y a pas une marge si conséquente et l'Inter doit faire attention, évidemment.
Je pense quand même que si l'Inter ne passe pas, en sachant que Tottenham ne fait pas de résultat, je pense que ce serait une grosse désillusion pour l'Inter.
Un gros échec.
Ouais. À noter, alors vous y faisiez allusion tout à l'heure, qu'il y a un Monaco-Dortmund ce soir.
Dans un groupe de la mort, il m'a dit.
Un groupe de la mort pour Monaco.
Dans la mort, voilà. Monaco.
La mort subite.
C'est le groupe du mort.
Monaco est déjà éliminé. Le seul suspense dans ce groupe et un des groupes où il y en a encore, c'est le fait dans ce groupe A de savoir si l'Atlético finira ou pas premier du groupe. L'Atlético donc qui joue à Bruges, alors que donc on disait Dortmund joue à Monaco. Est-ce que d'ailleurs ça a encore beaucoup d'importance ces classements, parce finalement, oui Philippe,
on se demande chaque année
parce que parfois,
évidemment parfois vous pouvez très bien être premier et tomber sur un deuxième énorme, ce qui est arrivé
au Paris Saint-Germain notamment.
Paris Saint-Germain quand ils étaient tombés
contre le Real
par exemple, qui était second du groupe, deuxième du groupe. Mais bon, globalement, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Si vous regardez un peu les classements cette fois-ci, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Globalement, vous avez quand même intérêt à être premier pour éviter quelques poids lourds. Ça simplifie souvent les poids lourds.
Le problème, c'est, vous savez, avec le tirage qui est tellement orienté, c'est compliqué aussi.
C'est compliqué. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, donc, rendez-vous à 20h55, heure de Paris, 19h55, en temps universel, avec nos envoyés spéciaux à Belgrade et ici, Tom Rossi. À demain.